Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto. Salut Germain.
Bonjour Antoine.
Bon, cette semaine, on va être nostalgique parce qu'on va revenir sur une marque qui a connu quelques petites années de, je peux même pas dire de gloire chez nous avant de disparaître suite à une faillite. Alors, on va parler à John May qui a travaillé pour Daewoo dès l'arrivée du constructeur au Canada jusqu'à pratiquement la toute fin. Il avait quitté l'entreprise quelques mois avant que la compagnie parte elle-même.
Alors, il avait quitté le bateau avant que le bateau coule.
Oui, finalement. Exactement, t'as tout compris. Mais en attendant, quelques actualités. D'abord, on a eu une bonne nouvelle concernant le Volvo XC40 Recharge. Ce véhicule-là, ça rentrait au compte-gouttes chez les concessionnaires. Ça n'a pas été promu tant que ça. C'est un véhicule qui partage l'entièreté de sa technologie avec la Polestar 2. Mais là, on a une belle annonce là, qui a été faite cette semaine.
Oui, effectivement. Et ça s'inscrit pour moi dans la même lignée que la baisse de prix de la Chevrolet Bolt et de la Nissan Leaf. Et
là, mais c'est à une autre échelle.
À une autre échelle, voilà. Et c'est Volvo qui nous annonce une baisse de prix considérable de son XC40 Recharge. Ouais. Donc, pour 2021, le prix d'entrée était de 64 950 $, ce qui faisait qu'il n'était éligible à aucun crédit, là, ni du fédéral, ni du provincial. Il n'y avait rien de possible. Mais là, pour 2022, on abaisse le prix à 59 950 $, ce qui le place évidemment sous la barre des 60 000 $, et il est donc éligible aux 8 000 $ de crédit du Québec, ce qui le rend soudainement un peu plus intéressant. Là.
Fait que là, le taux d'intérêt qui était à 1,9 va grimper à 5,9, puis ça va revenir au même.
Possiblement.
Mais... ouais, c'est ça. On verra ce que ça va donner.
Mais ça coûtera plus cher au gouvernement, c'est ça?
Ouais, exactement. Bon, là, évidemment, il y a aussi dans cette annonce-là la multiplication de versions disponible, qui n'était pas le cas avant.
Oui, donc on va avoir une version plus qui va coûter 8 000 $ de plus. Ouais. Et la version Ultimate qui, elle, va être à 10 850 $ supplémentaires.
Ils seront éligibles ou non?
Non, parce qu'on va dépasser le
donc,
le
c'est
plafond,
seulement que
là.
Le modèle
ça
de base.
Ça serait seulement la version de base. Okay. C'est ma compréhension de la chose. Puis, on a aussi ajusté l'autonomie. Hein. On va le mentionner au passage. L'autonomie est maintenant de 359 km et elle était de 335 km.
Ouais,
pas une grosse différence. Là,
pas une grosse différence, mais en même temps, on était tellement conservateur dans l'autonomie réelle parce qu'à 335 km, on était facilement capable de faire 390-400. Oui. Avec ce véhicule-là.
Et c'est les mêmes batteries, là. On n'a rien changé.
Est-ce qu'on a juste ajusté un petit peu? C'est possible. Peut-être que l'autonomie réelle, elle, ne bougera pas vraiment. Là.
Non, c'est aussi mon impression.
Bon, alors un véhicule électrique qui devient soudainement plus attrayant.
Oui. Est-ce qu'on va en avoir plus? On l'espère, là. Parce qu'on a beau avoir un beau et bon produit avec un prix plus intéressant que par le passé, si on n'en a pas plus en concession, ben c'est dommage. Là.
J'ai l'impression aussi que le marché de la Colombie-Britannique a dû peser dans la balance pour qu'on ajuste les prix parce que, bon, d'abord, il faut savoir que ce véhicule-là est assemblé en Chine, que ça parle beaucoup dans l'ouest du pays parce qu'évidemment, on le sait, là, du côté de la Colombie-Britannique, il y a une communauté chinoise qui est très, très, très nombreuse, en fait, qui est même majoritaire.
C'est plus facile d'importer d'importer de l'Asie à partir de la Colombie-Britannique. Le transport et la logistique sont pas mal moins complexes. Là.
Parce que la marque Volvo là-bas a une très, très bonne part de marché par rapport au reste du marché canadien. Alors ça, ça a dû peser dans la balance. Bon, à l'opposé, on a aussi dévoilé cette semaine un véhicule qui est peut-être un petit peu moins environnementalement parlant efficace.
Je te le confirme.
Un nouveau VUS, le NEC plus ultra en matière de VUS chez Lexus, c'est le LX 600 2022, qui n'est pas plus beau qu'avant.
Non, c'est pas plus beau qu'avant. C'est tout aussi ostentatoire que par le passé. C'est en fait la version de luxe hein, du Toyota Land Cruiser qu'on n'a malheureusement pas au Canada.
Et ça, c'est dommage parce que lui, le Land Cruiser, je trouve qu'il a un look assez intéressant. Du moins, ça fait camion costaud plus qu'avant. Et c'est un véhicule qui, selon moi, pourrait très facilement venir rivaliser, par exemple, avec un Tahoe, là.
Oui, possiblement. Ouais. Possiblement. Mais bon, j'imagine que dans cette échelle de prix-là, on préfère garder les acheteurs chez Lexus.
Ouais.
Enfin, bref, donc nouvelle génération pour 2022. Un véhicule qui avait quand même besoin d'un peu de changement et de modernisme,
légèrement,
disons-le. Et la grande nouveauté, c'est qu'il emprunte sa mécanique au nouveau Toyota Tundra. Donc, on va avoir droit là, au V6 biturbo de 3,5 litres. Donc,
ouais.
Reste à voir son rendement dans ce véhicule-là.
Bon, et une autre annonce d'Acura qui nous envoie une virgule de plus à chaque semaine,
oui,
jusqu'à ce que le véhicule soit finalement dévoilé. On parle encore de l'Acura Integra et là, tout ce qu'on nous confirme, c'est qu'elle sera disponible avec une transmission manuelle.
Et là, pardonne-moi l'expression, là, mais c'est un striptease interminable. J'ai hâte qu'on la voit en vrai finalement. Mais bon, comme on semble là, miser sur les amateurs de conduite, s'il en reste, avec l'Acura Integra, et là, ben, on nous confirme que la boîte manuelle à 6 rapports, hein, quand même, précisons-le, ben, va être disponible avec l'Integra. Bon, au moins ça, c'est intéressant. Et plus ça avance, et plus parce qu'on sait toujours pas hein, quelle forme exactement elle va prendre, mais plus ça avance, plus j'ai l'impression que ce sera, et là, ben, c'est sous toute réserve, hein, ce n'est que spéculatif, j'ai l'impression que ce sera l'équivalent de la Honda Civic Type R, mais sans tous les artifices. Donc, est-ce qu'on va en voir...
Est-ce que l'Acura Integra pourrait devenir ce que la Audi S3 est à la Golf R?
Possiblement, parce que on nous a déjà confirmé que ça allait être une voiture compacte, 5 portes à haillons, c'est le cas, hein, de la Civic Type R, et boîte manuelle à 6 rapports. Bon, tranquillement, on note certaines ressemblances et similitudes entre les deux voitures.
Il faut souligner aussi qu'on ne sait toujours rien de ce qui va arriver avec la Civic SI 2022,
ouais,
qui, elle, sera une berline,
ouais,
mais qui va probablement poursuivre sa carrière comme une voiture. On sait, par contre, que cette voiture-là ne sera offerte qu'avec la boîte manuelle. Il n'y aura pas de boîte double embrayage comme on retrouve actuellement, par exemple, sous le capot de l'ILX d'Acura.
Oui.
Alors ça, je trouve ça...
Ça existe encore, ça, l'ILX?
Oui, et
oui,
peux-tu me permettre une parenthèse?
Vas-y.
Une Honda Civic, aujourd'hui, ça coûte 30 000 $.
Oui.
Et t'as un...
ILX aussi.
Oui, mais t'as un petit moteur de 205 chevaux qu'une boîte séquentielle double embrayage. T'as une conduite qui est bien le fun. T'as une voiture qui est quand même assez jolie, mais qui a vieilli énormément.
Oui.
Moi, je me permets de te dire que je choisirais ça avant une Civic.
C'est un excellent achat. Parce qu'on a une excellente valeur entre les mains. Ça,
aujourd'hui, les compacts ont grimpé. Là.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Une Mazda, la Mazda 3 est plus chère.
Oui.
Alors,
entre une Mazda 3 et une ILX, voilà.
Mais t'achètes pas l'ILX pour le prestige de la marque. T'achètes l'ILX pour la valeur qu'elle représente aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, le problème, c'est que quand cette voiture-là était arrivée, on rivalisait pas là, des Mazda 3, là.
Bien, on te faisait croire qu'on jouait sur le territoire d'un Audi A3, d'une Mercedes CLA, ce qui n'a jamais été le cas, là, finalement.
Non.
Mais là, en vérité, au prix où on les vend, puis c'est eux probablement une des rares voitures méconnues actuellement sur le marché auxquelles les gens ne pensent pas et qui vaut la peine d'être considérée et avec laquelle vous pourrez probablement négocier un peu.
Oui, parce que c'est de plus en plus rare, le phénomène de la négociation, j'ai l'impression. On négocie le moment où on va avoir son véhicule, je pense.
C'est à peu près ça.
Donc, suivre pour l'Acura Integra, mais jusqu'à présent, on n'a pas trop de déceptions. Un mot, Antoine, sur rouler au suivant de l'épisode de cette semaine.
Ben, dans quelques instants, en fait, vous l'écouterez à 11h sur TVA Sports. C'est une émission un peu spéciale qui sera sur 2 semaines. 2 épisodes qui seront diffusés 11h samedi matin sur TVA Sports avec des reprises au courant de la semaine où vous verrez soirée, des étudiants retaper une Saturn Astra 2008 qui sera remise à un étudiant qui, lui, va aller dans une école des métiers dès l'automne.
La roue tourne.
Alors, c'est ça, exactement. Vous verrez l'épisode complet total en ligne la semaine prochaine. Donc, les deux émissions seront combinées en une seule sur les réseaux sociaux, sur la plateforme du Guide de l'auto. Mais du côté de TVA, ça sera divisé en deux épisodes. Alors, vous pourrez voir ça dans quelques instants.
Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Bon, Germain, parle-moi donc de ton Jeep Grand Wagoneer de 130 000 $.
OK, je peux bien t'en parler si tu veux. Donc, oui, c'est ce que j'ai mis à l'essai la semaine dernière. C'est carrément la réponse de Jeep à Cadillac, hein, parce que on voit le succès qu'on connaît depuis, quoi, une vingtaine d'années avec ce véhicule-là, l'effervescence, la demande et le...
Tu parles du Cadillac Escalade.
Du Cadillac Escalade, oui. Et chez Jeep, ben on n'avait jamais été joué vraiment dans ces cordes-là, parce que on avait eu le Commander, par exemple, mais on jouait pas du tout la carte là du très haut de gamme comme ça. Et là, ben pour 2022, on fait renaître le Wagoneer d'abord et le Grand Wagoneer. Et je pense qu'il y a un peu de confusion et je le vois dans les questions qu'on reçoit dans la boîte du guide de l'auto. Ouais. Donc les deux véhicules ont les mêmes dimensions. On a le même
véhicule,
châssis,
ouais.
C'est le même véhicule. Donc il y en a pas un qui est plus court, plus petit. Les deux, c'est exactement le même véhicule.
Ouais.
Le châssis du Ram 1500 DT. Donc comme l'Escalade, on a un châssis de pick-up. Dans le cas du Wagoneer, c'est seulement le V8 émis de 5.7 litres. Et dans le cas du Grand Wagoneer, qui lui est le plus luxueux, plus débordant de tout, là on a le V8 émis de 6,4 litres. C'est énorme. Et franchement, j'ai été impressionné par les accélérations du véhicule parce
ouais.
qu'on s'entend, c'est énorme, c'est imposant, c'est large, ça déborde de partout. Mais quand t'appuies, ça avance étonnamment rapidement. Les reprises sont bonnes.
Ben, c'est plus puissant qu'un Cadillac Escalade, qu'un Lincoln Navigator.
On est à 471 chevaux.
Ouais.
J'ai été impressionné. Je peux le dire, là. J'ai été impressionné.
Est-ce que...
Tu parlais de prix à 130 000 $. Bon,
il est au bouchon, là.
Oui, il est au bouchon. On a 3 ou 4 niveaux là, de finition. Série 1, 2, 3 et un quatrième avec une appellation différente dont le nom m'échappe, mais bref.
Qui est une version conçue pour le hors-route un peu plus.
Oui, donc à 130 000, on est au bouchon, mais en même temps, c'est comparable là, à ce qu'on retrouve chez Cadillac avec le Escalade. Mais,
est-ce que tu as la perception, est-ce que tu as l'impression que la clientèle moyenne nord-américaine pourrait considérer que Jeep est un flagship au même titre qu'un Cadillac Escalade? Parce que faut pas oublier un truc. Le Grand Wagoneer est vendu, oui, via Jeep,
ouais.
Mais vous ne retrouverez pas d'emblème Jeep un peu partout.
Et voilà. T'sais? Donc, ce n'est pas un Jeep, c'est un Grand Wagoneer. C'est vraiment comme ça qu'il faut...
C'est un Grand Wagoneer par Jeep.
Ouais,
et non pas un Jeep Grand Wagoneer. La
ouais.
nuance est difficilement compréhensible, ouais. Là,
Mais c'est ça. Et on retrouve sans farce, là, 75 000 inscriptions Wagoneer et Grand Wagoneer, mais des écussons
ouais.
Jeep, c'est beaucoup plus...
Et des rappels à l'ancienne génération.
Oui, effectivement. Donc, oui, j'ai l'impression qu'on va réussir à charmer une clientèle peut-être plus facilement que Lincoln avec le Navigator. C'est pour moi un véhicule qui est beaucoup plus convaincant et sérieux. Et
prix est indécent.
C'est indécent parce que bon, on parle de 130 000, mais le Grand Wagoneer en entrée,
ça part à 100 000.
Hey, c'est beaucoup d'argent là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais bon, c'est...
Puis l'autre truc qu'il faut mentionner...
Il y a une clientèle qui est là et il
ouais.
n'y a pas de doute. Là.
Puis l'autre truc qu'il faut mentionner, oui. c'est que... il y a aucun système hybride, il y a aucun
non,
pour le
non,
moment,
non,
ça
non,
va
non.
venir éventuellement, mais
non,
pour
non,
le
non.
moment, on a des moteurs EMI qui consomment
mais on pourra
de
pas
façon
mettre,
généreuse. Là.
On pourra pas mettre la technologie 4XE avec le 2 litres turbo et
non. T'sais,
ça a pas de bon sens, il va falloir arriver avec quelque chose d'un peu plus costaud. Donc et oui, ça consomme énormément, j'ai fini la semaine à plus de 18 litres au 100, donc c'est plus qu'un Cadillac Escalade là.
Je sais que la perception de la marque Jeep, elle est bonne à l'échelle mondiale. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de Jeep d'émanciper l'image de marque et d'amener certains de ces produits-là. Bon, le Grand Wagoneer n'ira pas se vendre en France, là.
Non, mais, c'est moins adapté.
Mais il y a plusieurs produits de la marque qui vont se retrouver là-bas, dont le Grand Cherokee, qui sera disponible avec des 4 cylindres turbo, entre autres. Je sais que la perception de la marque Jeep est très bonne. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été pertinent, selon toi, de, si on veut faire renaître la marque Chrysler, d'amener un gros VUS Chrysler qui, lui, aurait, si tu veux, cette espèce de...
On l'aurait appelé le Chrysler Grand Wagoneer?
On l'aurait appelé le Chrysler Aspen, le Chrysler
quoi. Ça, j'y aurais pas cru.
Mais tu sais, un gros VUS chez Chrysler non. pour...
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Faire renaître la marque parce que Chrysler est à la dérive, là.
Oui, je sais qu'on réfléchit à voix haute, mais moi, ça me...
Vois-tu un avenir dans cette marque-là, toi?
Non.
Parce que, c'est une époque...
Non, mais je vois un très beau succès au Grand Wagoneer dans sa version telle quelle chez Jeep. Ça, je le vois.
Mais la raison pour laquelle je te pose cette question-là, c'est que...
Chrysler
était la marque de luxe.
Ouais.
Aujourd'hui, Chrysler, c'est une marque de char de location.
Ça a plus rien. Ça n'a plus rien.
On l'a tué, là.
Le nom Grand Wagoneer est pour moi plus évocateur que la marque Chrysler.
Oui. Ben, effectivement. Voilà. Sans se poser de questions.
De ton côté, un véhicule un petit peu plus terre-à-terre, la Toyota Prius Prime.
Oui, la Prius Prime, écoute, que j'ai réessayé. Elle n'a aucun changement pour 2022. Mais je voulais me remettre les pieds à bord de cette voiture-là. Bon, qui a 40 km d'autonomie électrique. J'ai fait 38. Mm. Après ça, tu tombes en mode hybride à 3,5, 3,7 litres au 100. Donc, oui, c'est la meilleure voiture hybride que vous pouvez vous procurer actuellement. Et toute la pertinence de cette voiture-là se retrouve dans le fait qu'en raison du crédit gouvernemental de 6 500 $ qui est applicable à l'achat de cette voiture-là, et parce que Toyota Canada la promouvoit, la pousse, veut en vendre et en a en inventaire, ben c'est une auto qui coûte moins cher et qui est plus alléchante qu'une Prius ordinaire. Donc, vous allez magasiner demain matin une Prius régulière chez un concessionnaire. Automatiquement, on va vous diriger vers une Prime.
Et avec raison.
Parce que le taux de financement est équivalent, parfois même moindre selon les termes, parce qu'on en a en inventaire et parce que quand tu calcules le crédit gouvernemental, ben mensuellement, elle te coûte moins cher en achat comme en location, quoique la location n'est pas alléchante, là, les taux sont à 5,5%, ça n'a pas de sens, mais en financement, à un taux de 3,29 ou 3,79% selon le terme, ben tu peux te procurer une Prius Prime hybride rechargeable qui va te coûter moins cher d'essence évidemment et qui est une voiture très intéressante pour moins cher qu'une Prius régulière.
La question se pose même pas.
Écoute, c'est de loin la voiture hybride rechargeable la plus vendue au Québec. C'est une des 10 voitures compactes intermédiaires les plus vendues au Québec. On a un peu plus de 3 500 unités découlées à l'heure actuelle au Québec.
C'est un peu plus que d'Insight, ça.
Oui. Alors, tu sais, c'est une voiture avec laquelle on connaît beaucoup de succès. Elle ne change aucunement pour 2022. Il y a 3 niveaux de finition. Et ça s'arrête là. C'est pas une auto qui est super impressionnante à conduire. Au niveau des écrans puis de la qualité graphique des écrans, on voit qu'on est ailleurs complètement.
Là. Ça sera peut-être dû là, pour une petite mise à jour.
Puis ça va se faire, ça sera pas long. Mais en attendant, c'est une sacrée bonne valeur. Une voiture d'une très grande fiabilité. Étonnamment spacieuse, hein? Et plus pratique qu'une Camry. C'est-à-dire que c'est une voiture à haillons. On peut rabaisser à plat les sièges arrière. Il y a beaucoup d'espace. C'est très confortable. C'est pas puissant. Là. C'est 121 chevaux en puissance combinée électrique et essence. Mais c'est quand même une auto très, très, très pertinente. Et je t'avoue que de conduire cette voiture-là dans le contexte actuel avec un litre d'essence à 1,50 $, je trouve que plus que jamais, c'est une voiture très, très, très pertinente. puis qui vaut la peine d'être considéré si, évidemment, vous acceptez de fermer les yeux sur son look qui est
peut-être
pas...
Parce que c'est pas la plus belle voiture du marché.
Non.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, il y a quelques semaines, dans la Grosse Brune, dans notre quotidienne de la Grosse Brune...
Notre hebdomadaire, disons ça.
Oui,
comme ça.
Notre hebdomadaire, excuse-moi, oui. Parce que, bon, évidemment, quand je pense à quotidienne, je pense tout le temps à mes épisodes de District 31 que j'ai pas encore écouté cette année, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais, bref, on a vaguement évoqué la disparition de la marque Daewoo, qui est partie depuis presque 20 ans maintenant, déjà.
On l'avait évoqué parce que tu avais reçu en cadeau une pièce...
d'anthologie.
Une pièce vintage, une pièce de mode... un peu douteuse. C'était un très bel imperméable à l'effigie de la marque Daewoo.
Exactement.
Et suite à ça, on a eu l'idée de creuser peut-être un peu plus... De creuser un peu plus loin l'histoire, la courte histoire de la marque Daewoo et de recevoir quelqu'un qui était très impliqué chez Daewoo au Canada comme directeur des pièces et du service. Donc, on est avec John May aujourd'hui.
Salut, John.
Salut, les gars.
Bon, ben merci de prendre le temps de nous parler de tes anciens amours qui n'auront pas duré longtemps.
C'est à peine plus long qu'un amour d'été, là.
Ouais, c'est ça.
Absolument.
Écoute, t'étais là, toi, au tout début de Daewoo au Canada, au Québec. Explique-moi un peu quelle était d'abord ton implication dans l'arrivée et, disons, la distribution ou l'émancipation de cette marque-là dans la province de Québec.
Comme tu sais, Antoine, dans l'automobile, c'est un petit domaine, dans le fond, quand tu travailles dans le domaine de l'automobile, surtout avec les manufacturiers, pas mal tout le monde se connaît. Et puis, la façon que c'est arrivé, c'est arrivé par hasard. J'avais une dame qui travaillait pour un concessionnaire Nissan, puis moi, j'étais à l'emploi de Nissan depuis déjà plusieurs années.
Ouais.
En 99, lorsque Daewoo s'est joint au manufacturier automobile du Canada. Et puis, cette personne-là me dit « Écoute, John, je sais que le nouveau manufacturier Daewoo cherche des gens. Je pense que tu serais un bon fit avec la personne qui est en charge au Québec. Je la connais très bien. J'ai travaillé avec elle dans un autre manufacturier, tout ça. » Puis j'ai dit, écoute, ça m'intéresse pas vraiment, je suis bien chez Nissan, ça fait déjà 10 ans que je suis là, tout ça. Puis elle m'a dit, j'aurais vraiment pensé que tu m'aurais dit oui, je vais aller voir. Puis j'y ai pensé, puis j'ai rappelé la personne, puis j'ai dit, écoute, mets-moi en contact avec la personne. Je penserais pas que je vais déménager de manufacturier, mais j'ai dit, on sait jamais, je suis prêt à la rencontrer, puis je suis allé rencontrer cette personne-là.
Toi, évidemment, à cette époque-là, ton rôle chez Nissan, c'était DPSM. Tu t'occupais des pièces-service également?
Oui, exactement. Je faisais le même travail chez Nissan que j'ai fait chez Daewoo pendant 2 ans et demi.
Donc, tu as remplacé des moteurs de Nissan Quest à toutes les semaines?
J'ai fait plusieurs choses chez Nissan.
OK. Bon, donc, ton rôle chez Daewoo, c'était ça, directeur pièces et services dès l'ouverture de ce constructeur-là, mais tu as fait plus que ça, par exemple, parce que tu étais aussi responsable de faire connaître et de faire en sorte que des concessionnaires se créent et embarquent dans l'aventure.
Bien, absolument. L'important, quand je me suis joint avec Daewoo, c'était, à titre de ce qu'on appelle communément dans notre domaine DPSM, mais ce qu'on devait faire, c'est développer le réseau de concessionnaires Mitsubishi, parce que moi, quand je me suis joint...
Tu veux dire Daewoo?
C'était... Est-ce que j'ai dit Mitsubishi?
Oui, oui. Un petit lapsus.
Ah, excusez-moi. Alors, lorsque je me suis joint à Daewoo, c'était vraiment au début. Il y avait quelques concessionnaires d'autres marques qui étaient intéressés,
ouais.
Mais il
n'y
avait pas un concessionnaire d'ouvert lorsque j'ai joint Daewoo. Et puis, lorsque j'ai quitté 2 ans et demi après, on avait un réseau de concessionnaires de 17 concessions.
Et quand même, OK.
Et toi, au tout début, là, bon, tu nous mentionnais avoir été approché pour te joindre à cette marque-là. Ta perception personnelle d'une nouvelle marque coréenne, ça ressemblait à quoi? Parce que, bon, Antoine se rappelle de l'arrivée de Daou, mais moi, j'étais un très jeune garçon au moment de la disparition de Daou, et j'étais encore un pas mal plus jeune garçon au moment de l'arrivée, là. Donc, les souvenirs sont
pas là. Il faut se souvenir aussi qu'à cette époque-là, la perception de la marque Hyundai n'était pas encore très, très positive. En 98-99, Hyundai commençait tranquillement à reprendre du galon un peu après des années tristes. Fait que un nouveau constructeur coréen, ça devait pas être évident, là.
Non, mais puis dans le fond, ce qui est vraiment arrivé, puis la raison, je devrais dire, la raison principale pour moi de quitter Nissan après 10 ans, c'est lorsque j'ai rencontré la personne qui était en charge de développer le réseau de concessionnaires, et puis dans le fond, c'était mon patron.
OK.
C'est un dénommé Jean Desjardins, qui malheureusement est décédé aujourd'hui. Mais je me suis assis dans le bureau de cette personne-là. Il m'a parlé pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, je savais que je quittais Nissan. C'était quelqu'un qui était passionné par l'automobile. On parlait le même langage. Puis ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est sûr et certain que moi, je suis devenu le DPSM de Daewoo, mais c'était avec la promesse que lorsque le réseau serait beaucoup plus gros, stable, qu'on engage des gens pour couvrir les territoires, tout ça, ben je devenais le patron de pièces et services au Québec.
Okay.
Alors il y avait ça en plus qui faisait que j'étais beaucoup intéressé de prendre la chance de quitter un beau travail, parce que je dois admettre que mes 10 ans chez Nissan, ça a été des très très belles années, là. Puis ce qu'il faut pas oublier, c'est que en 99, Nissan, ça allait pas bien.
Non, c'est ça que je m'en allais dire. Tu sais, si tu me permets, moi je me souviens, Nissan, c'était l'époque des nouveaux designs de Jerry Hirschberg avec des Sentra, des Altima qui étaient laids à mourir, les ventes qui étaient en chute libre. Puis évidemment. Et moi, je connais assez le domaine pour savoir que quand tu travailles pour un gros constructeur établi, il y a des protocoles, il y a une hiérarchie, il y a une façon de faire qui se passe. Alors que quand c'est un nouveau constructeur qui vient juste de débarquer,
tout est à bâtir, sky is the limit. Oui, là. Voilà.
Oui, ben, puis c'est ça qui est intéressant, dans le fond, c'était tout est à bâtir. Puis là, ce qu'il faut pas oublier dans tout ça, c'est que on était... Quand on a commencé chez Daewoo, je pense que j'étais le septième employé de la compagnie. On était peut-être une vingtaine à travers le Canada au début. Alors, je parlais directement au président de Daewoo Canada. C'est une base régulière. On avait des réunions avec M. Desjardins et tout ça. Il y avait mon collègue Harry Jodoin qui, lui, a quitté Mazda après plusieurs années. Alors, ils ont recruté des gens qui avaient... Puis dans le fond, je me mets dans ce bain-là, là, qui avait une bonne réputation, qui c'était des bons travaillants. Et puis, je dois dire que ma plus belle expérience de tous mes manufacturiers, ou celle qui m'a fait le plus cheminer, c'est celle de Daewoo.
Parce que?
Parce que, dans le fond, je n'avais plus seulement qu'à m'occuper de pièces et services. Je devais recruter des gens. Je devais les convaincre que Daewoo, c'était quelque chose de bien, qu'on était... On voyait grand, hein? Parce que, comme on a déjà discuté juste un petit peu, Germain et Antoine, on était là en même temps que Kia a commencé à vouloir développer le réseau de concessionnaires de leur côté aussi.
Eux sont arrivés quelque chose comme 6 mois après, hein?
6 mois après nous.
C'est ça.
Alors, moi, quand je cognais à des portes, puis je rentrais, dans le fond, ils me disaient soit « je te rencontre, toi, puis après ça, je vais rencontrer Kia, je vais prendre une décision. » Puis, dans le fond, on compétitionnait un contre l'autre.
Quand tu allais solliciter des gens qui pourraient devenir concessionnaires, ben eux s'étaient fait offrir les deux bannières et là avaient à choisir entre les deux.
Exactement.
Et dans certains cas, on choisit les deux.
Oui, dans certains cas, mais je te dirais que sans prétention, À ce moment-là, en 99, début 2000, si tu regardes les deux compagnies, je crois que Daewoo avait un produit qui était plus intéressant que ce que Kia avait à ce moment-là.
Puis un portfolio plus large?
Portfolio plus large, on avait...
parce qu'on avait juste deux modèles chez Kia, là.
Oui, juste deux modèles. Puis chez Daewoo, on avait trois modèles. On avait le Lanos 3 portes, le Lanos 4 portes, on avait le Nubira Station Wagon, puis on avait le Liganza.
Qui était l'équivalent d'une Sonata, disons. Là. Ouais, c'est ça. Okay.
Exactement, c'est ça.
Et comment ça fonctionnait avec les concessionnaires? Parce que, bon, on a reçu, il y a plusieurs mois, à l'émission, un type qui s'était procuré une franchise Kia au tout début de la marque et qui la possède toujours, d'ailleurs, et qui nous avait raconté que lui était un détaillant de véhicules d'occasion avec un commerce établi, si je me trompe pas, dans la grande région de Québec, et que, grosso modo, pour 50 000 $ il avait pu se procurer cette bannière-là. Cette bannière-là coûte beaucoup plus cher aujourd'hui et vaut beaucoup plus cher. Mais est-ce que c'était sensiblement la même chose chez Daewoo? Autrement dit, quelqu'un levait la main, quelqu'un avait un terrain puis une bâtisse, puis go, on y allait. On n'était pas plus sélectif que ça?
Non, chez Daewoo, on était très, très, très sélectif. Et puis, en général, on a... des 17 concessionnaires, puis j'y vais de mémoire, là, on n'a pas pris personne qui était du marché de l'usager.
OK.
C'était tous des propriétaires actifs d'un concessionnaire, d'un manufacturier quelconque. Là.
OK.
On avait des gens de Honda, on avait des gens d'Acura, on avait des gens de Mercedes, on avait des gens de Nissan. Toyota, je pense un exemple, Daewoo à Montréal était propriétaire d'une concession.
Ça se prononce drôle d'ailleurs, hein?
Oui, oui.
Daewoo.
Oui.
Oui, c'est sûr.
Alors oui, c'était des gens qui avaient déjà des concessions d'une autre marque.
On a évoqué ta perception personnelle de l'arrivée de cette nouvelle marque-là. Maintenant, sur le plan du consommateur, donc celui qui se procurait un véhicule là au tournant des années 2000, sa perception de cette nouvelle marque coréenne-là était quoi, finalement?
Ben c'est si tu me demandes ma perception à moi, je crois que, comme on a dit tout à l'heure... Hyundai avait vécu des moments difficiles, tout ça. La perception était quand même pas très, très, très élevée de Daewoo. Mais nous, on bâtissait cette marque-là en leur disant que c'était comme le haut de gamme des Coréens, des Sud-Coréens. Excuse-moi.
Donc, c'était ça le positionnement, carrément?
Oui, positionnement carrément, ce qu'on disait à tous les gens, c'est que nous, on était l'haut de gamme des Coréens.
Écoute, moi, si tu me permets, je me souviens très bien qu'au début 2000, ma mère magasinait une voiture et on était, elle s'intéressait tout le temps à des... Elle regardait pas des Honda puis des Toyota. Fallait toujours que ce soit une marque. Elle a acheté deux Hyundai. Bon, elle a eu beaucoup de Nissan, ironiquement. Elle a eu des Sentra, entre autres. Mais remplaçait justement sa Sentra 94 par une nouvelle voiture en 2000. Et elle m'avait parlé, elle, directement de Daewoo. Et j'étais allé avec elle chez Hull Daewoo, justement, qui était sur Sherbrooke, dans l'Est, si je me souviens bien.
Oui. Exactement.
Et elle avait adoré le produit, mais elle avait détesté le vendeur qui était un colon épouvantable. Là, on était vraiment tombé sur un numéro qui n'avait pas de bon sens. Et c'est ça qui avait fait qu'elle n'avait pas acheté la Daewoo et finalement qu'elle s'était acheté une Mazda protégée sur un concessionnaire qui n'existe plus non plus aujourd'hui sur Papineau. Alors, le produit l'avait énormément intéressé. Elle était allée l'essayer. C'était une voiture qui était plus spacieuse que la moyenne, qui avait quand même beaucoup de caractéristiques, mais le vendeur, ça avait pas cliqué. Non, pas du tout. Pas du tout.
Ça, c'est malheureux. Puis malheureusement, ça se passe encore aujourd'hui. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, vu qu'il y a un manque de produits, on doit être pas mal plus...
Oui, hein?
Oui.
Oui, ça, c'est sûr. Écoute, Évidemment, Daou, ça n'a pas duré longtemps. Les quelques années qu'on a été là, les produits se sont un petit peu raffinés. On a fait des retouches esthétiques sur certains modèles. On a amélioré quelques petits trucs. Quelles ont été, selon toi, les pires erreurs que Daou a fait en tant que réseau, que concessionnaire de produits?
Ben, écoute, j'ai été là 2 ans et demi. Je te dirais que des erreurs majeures qu'on a fait, je pense pas qu'on a fait, mais qu'on a fait comme d'erreurs majeures, parce que d'avoir développé un réseau quand même assez vite, ça. Puis ce qu'il faut pas oublier, on a développé ce réseau-là assez rapidement, parce que suite à l'arrivée de Daewoo au Canada, 6 mois après, ils ont annoncé qu'il y avait des problèmes, fort probablement qu'ils étaient en faillite, tout ça.
Ouais.
Malgré ça, on a été capable de recruter d'autres concessionnaires, parce que on croyait toujours que quelqu'un était pour racheter la compagnie, tout ça. Mais des erreurs majeures,
il n'y a rien de précis.
Non, il n'y a rien de précis. Un manufacturier automobile, ça a des bons côtés, des mauvais côtés. T'as un produit, des fois, qui peut peut-être avoir un défaut, mais les ingénieurs travaillent dessus, essayent de faire la réparation le plus rapidement possible. Alors, des choses, est-ce qu'on a laissé des gens vraiment tomber? Je ne crois pas. Puis moi, j'étais quand même très, très fier de travailler pour cette compagnie-là. C'était surtout de le nouveau. Je voulais avoir une aventure différente,
ouais.
que j'ai beaucoup appréciée.
Bon, évidemment, là, on sait ce qui est arrivé. La faillite de Daewoo qui est survenue quelques années à peine après que le constructeur se soit établi au Canada, malheureusement. Et contrairement à Kia, qui a été racheté par Hyundai, ce qui a permis de faire fructifier la marque, ben Daewoo, c'est General Motors qui a mis la main sur le constructeur. Et ben la stratégie n'a pas été la même. Comment ça s'est passé? Raconte-nous donc comment ça s'est passé, tout ça.
Je te dirais que je suis un petit peu moins au courant de ces faits-là, dans le sens que c'est à peu près au moment où moi j'ai quitté pour aller chez Kia.
OK.
Mais de mémoire, puis je vais de mémoire, le président de la compagnie en Corée avait fait des choses qui n'étaient pas très, très catholiques. Là, on essayait de vendre la compagnie à Chrysler. Ça s'en allait dans le bon sens. Puis là, il y a des journalistes aux États-Unis qui ont commencé à parler de l'unification des deux compagnies. Puis là, ils ont commencé à dire, ben si tu achètes Daewoo, c'est pareil comme prendre, de mémoire, c'était 1,5 milliard de dollars. Mets ça sur une barge, amène-la dans le milieu de l'océan, fais-la couler. Alors, les chances n'étaient vraiment pas de notre bord, là.
Puis, si je me souviens bien, tu me racontais aussi qu'à cette époque-là, Kia était en eau trouble, Daewoo était une compagnie qui était carrément en faillite, puis il y avait aussi le constructeur SsangYong du côté de la Corée qui était en problème aussi. Alors, toutes les marques coréennes, peut-être mis à part Hyundai, étaient en sérieuse difficulté financière à cette époque-là, donc il y avait une offre de disponible pour le rachat de ces marques-là pour n'importe qui, là.
Exactement. Et puis, c'était justement dans le temps où Hyundai a fait le rachat de Kia.
Ouais.
Puis là, le gouvernement coréen, ça avait mêlé un peu de ça. Ben pas de Kia, parce que Kia avait été racheté par Hyundai. Mm-hmm. Mais ils ont essayé de forcer Hyundai à racheter Daewoo. Et puis, de mémoire, ce qu'on parlait dans ce temps-là, c'est que Hyundai avait dit, écoutez, on va commencer par essayer de bien faire fonctionner Kia.
Ouais.
Et puis, on va laisser quelqu'un d'autre s'occuper de Daewoo.
Et finalement, ben, c'est GM qui a rapatrié ça, mais ça s'est fait assez rapidement, parce que en fin d'année 2002, Daewoo quittait le marché canadien, faillite officielle, terminée. Et dès 2004, les Daewoo renaissaient sous une bannière Chevrolet avec des nouveaux produits. Donc là, pour situer les gens...
On avait l'Aveo, par exemple.
L'Aveo était la Lanos.
Oui.
Ouais, c'est ça. L'Epica était la...
L'Eganza.
Extravaganza.
On avait l'Optra aussi.
Qui était la Nubira et la VO qui était la Lanos, exactement. Puis en plus, il y avait eu une espèce d'association curieuse avec Suzuki où on vendait une Suzuki Verona qui était en fait une Daewoo aussi vendue chez Chevrolet.
Puis on avait la Swift qui était la VO aussi, mais plus chère, pas mal plus chère. Ouais, bref.
En tout cas, c'est ça. Mais en peu de temps, on s'est revirait de bord, puis on a commercialisé les produits Daewoo via des bannières Chevrolet. Qu'est-ce qui est arrivé des 17 concessionnaires Daewoo du Québec? Comment on leur a annoncé ça? Quand est-ce qu'on a tiré la plug? Et est-ce qu'on a continué d'honorer des garanties de quelque façon que ce soit?
Oui. Ce que je sais, c'est que la garantie, dans le fond, à tous les fois qu'un manufacturier vend une voiture, il doit mettre des fonds de côté pour si jamais il arrive quelque chose avec la compagnie. Et puis, les garanties ont été honorées de tous ces véhicules-là. Il y a resté... Dans le fond, il y a certains concessionnaires qui ont décidé de simplement fermer avec... Puis, je crois qu'ils ont eu des compensations, mais ça, je suis pas certain à 100%.
OK.
Mais je sais qu'il y a... Puis, j'y vais de mémoire, c'est à peu près 5 concessionnaires qui ont demeuré ouverts pour faire la portion service. Il y avait un monsieur de mémoire, c'était un monsieur John Simmons qui lui est resté pour Daewoo jusqu'à la toute fin. Il y avait des gens qui transigeaient les réclamations pour les concessionnaires qui étaient encore ouverts. Puis là, je parle juste du Québec parce que c'est ce que je me rappelle là. Mais il y avait à peu près 5 concessionnaires qui avaient demeuré ouverts pour donner le service aux clients. C'est sûr et certain que est-ce qu'il y a eu des problèmes de réception de pièces, de tout ça? Oui, parce que je connaissais des gens qui travaillaient pour la compagnie après mon départ et puis qui me disaient, écoute, John, c'est sûr et certain que on n'a pas la même priorité que si on était ici installé toujours en
business. Bien sûr.
C'est un peu plus dur d'avoir nos pièces, tout ça. Alors, il y a des gens qui ont eu des problèmes avec avec le service de garantie, mais je vais dire la chose suivante. J'ai vendu beaucoup de produits Daewoo dans ma famille à ce moment-là.
OK.
Et puis, je te dirais que la majorité des gens ont été quand même assez satisfaits du produit.
Ah, ils te parlent encore?
Oui! J'ai remplacé tout ça avec des Sportages et des Sefia.
Ouais, c'est ça.
Mais est-ce que les concessionnaires GM, par la suite, pouvaient s'occuper du service ou le lien a été interrompu à ce moment-là?
Non, il n'y a eu aucun lien entre le produit Daewoo et Chevrolet ou General Motors. Il n'y avait pas de lien. Tu ne pouvais pas aller chez un concessionnaire Chevrolet et faire réparer ton Daewoo.
Écoute, moi, je me permets une petite anecdote en terminant. J'avais participé à des matchs comparatifs du guide de l'auto au début des années 2000 où souvent, il y avait un produit Daewoo et Kia qui était mis en compétition. Ça a été le cas du Sportage, de la Sefia, mais aussi de la Nubira. On avait fait un match de voiture familiale. Donc ça, c'était pour le guide 2002, l'année où la Protégé 5 était arrivée. On avait une Focus familiale, on avait la PT Cruiser, on avait bref une couple de petites voitures comme ça. Et la Daewoo, puisqu'on était...
Tous des véhicules qui ont bien vieilli, hein, soit dit en passant.
La Nubira familiale qu'on nous avait prêtée, il n'y avait pas de voiture de presse de disponible à cette époque-là. Et Denis Duquet m'avait envoyé dans un concessionnaire dans le West Island sur le boulevard Gouin, qui était une véritable bicoque. Écoute, il y avait des machines à boules dans le showroom.
Et si je me trompe pas, c'est un concessionnaire Kia dorénavant.
Je sais pas ce que c'est aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait des vieilles Chrysler Fifth Avenue dans la cour. Il y avait toutes sortes de trucs. 3-4 Daewoo. Et on m'a prêté la voiture de la femme du propriétaire du concessionnaire.
Le cas classique.
Et moi, je pars avec cette voiture-là. Elle sentait la cigarette, là, je vais toujours me souvenir de ça. Bleu poudre, tout équipé, très bien. T'sais, elle avait été nettoyée, tout le kit, mais ça sentait la cigarette là-dedans, pas un peu. Et
au début des années 2000, c'était plus courant.
Et nous, on amène ces véhicules-là sur le circuit à Saner. On fait nos essais, on fait nos photos, on va rouler dans les routes d'arrière-pays autour du circuit de Saner. Et je suis celui qui est responsable de ramener la voiture après. Et moi, je redonne...
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Les clés à l'accueil du concessionnaire. Je repars avec mon véhicule que j'avais laissé là-bas. Deux jours plus tard, c'est Denis Duquet qui m'appelle et qui me dit « Antoine, il paraît que ça sent le pot dans le véhicule, que les sièges sont brûlés.
Ben voyons.
Le concessionnaire est en furie. Est-ce que tu as fumé de la drogue dans le véhicule? » Puis là, je sais pas. Évidemment, je pars à rire, mais je ris à jaune parce qu'à cette époque-là, j'étais nouveau dans le domaine, puis ça me tentait pas que Denis ait cette perception-là de moi. Mais en même temps, non, j'ai pas
c'était
fumé
pas
de drogue.
Et,
bon, alors, pour ensuite réaliser que, écoute, le cendrier était plein, que ça avait pas été vidé, que probablement que la femme du propriétaire l'avait brûlé et que le concessionnaire avait tenté, ou du moins ce type-là avait tenté de faire une réclamation ou quelconque que ce soit. Mais Denis, 20 ans plus tard aujourd'hui, m'en parle encore de cette histoire-là parce que il avait dû gérer la situation assez drôlement. Alors, si vous feuilletez les pages du guide de l'auto 2002, il y a une Daou bleu poudre dedans. Eh bien, c'est Bibi qui était responsable d'aller se promener avec ça. peut-être que tu te souviens du propriétaire du concessionnaire, John, je sais pas, là.
Je me souviens un peu. Je me rappelle pas du nom exactement de la personne, mais je vois dans ma tête la bâtisse. Je vois les
vieilles minounes, puis les machines à boules, puis ça m'avait marqué. Je regrette de ne pas avoir de photos de ça. Mais enfin, bref.
Mais vous voyez, ça, c'en est un qui était un concessionnaire de voitures usagées. C'était, je me rappelle encore, oui. Si on avait un peu plus de temps, je trouverais le nom.
Quoi, tu peux toujours nous refaxer ça, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, ben John, merci d'avoir pris le temps de nous rappeler des bons souvenirs avec la marque Daewoo. Et ben comme quoi, des fois, hein, les meilleures intentions sont données, puis il y a plusieurs bons employés pour lancer une marque, mais il y a un constructeur à l'autre bout de la planète qui
ben
fait
voilà,
ben coudonc,
c'est pas nécessairement juste la gestion au Canada, mais on est dépendant du constructeur à l'international.
Fait que reste à voir ce qui va arriver avec le prochain venu qui sera là j'ai Skywell dans la tête.
Oui, Imperium Motors
qui est supposé débarquer dans les prochaines semaines, mois à suivre. John, nouvelle job, ça te tente pas?
Ah, on peut jamais dire jamais.
OK.
Ah, voilà, la réponse de politicien classique. Merci beaucoup, John.
Merci.
Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Antoine, on va conclure l'émission avec quelques questions des auditeurs. On a Gilles qui nous dit avoir été propriétaire d'un Nissan Frontier Pro 4X 2016 pendant 5 ans et 160 000 km. Il l'a donné en échange contre un Ford Ranger XLT 2020, qui était un véhicule démonstrateur.
Okay.
Après 10 000 km d'autoroute de ville avec et sans remorque, il arrive à la conclusion qu'il ne l'aime pas du tout et qu'il ne l'aimera jamais. Il n'aime pas le son, les performances et le rendement du moteur.
Okay.
Et il envisage très sérieusement de le remplacer par le nouveau Nissan Frontier ou le Toyota Tacoma. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, en fait, le Tacoma, c'est un véhicule qui a une réputation enviable, qui est très solide, qui est très fiable, qui est un 4x4 redoutable. Je ne peux pas déconseiller l'achat de ce camion-là. Par contre, c'est très cher. Vous allez l'attendre longtemps. Les taux de financement sont usuraires. C'est bruyant. C'est inconfortable et la cabine est très étroite. Alors, il y a beaucoup d'irritants pour le Toyota Tacoma et on paye pour sa réputation, pour sa fiabilité. Le nouveau Frontier, c'est un camion qui corrige l'essentiel des lacunes du Tacoma. Le Frontier a un moteur qui a un couple initial beaucoup plus intéressant. A un moteur plus intéressant, sur mon avis. D'abord, tu as 310 chevaux au lieu de 278. Le couple est plus intéressant aussi. Il n'y a pas de version aussi poussée en matière de conduite hors route.
Ça viendra peut-être plus tard. Là.
Mais le Pro 4X chez Nissan, qui est probablement la version la plus intéressante et celle qui va se vendre le plus de toute façon, a tout pour plaire. Là. Cabine confortable, siège confortable, instrumentation beaucoup plus moderne que ce que vous allez retrouver du côté de chez Toyota. On a une mécanique qui est plus intéressante, consommation qui est, à mon avis, meilleure que du côté de chez Toyota, mais qui n'est pas si impressionnante que ça non plus. Mais je veux dire, vous avez des capacités équivalentes, vous avez un bon camion, c'est solidement construit. Moi, personnellement, si tu me donnes le choix entre les deux véhicules, sans égard au prix, à la valeur de revente, à tout ce que tu voudras, je préfère le Nissan et de loin. Je trouve que Nissan se démarque, qu'on a un camion qui est très sérieux. Mais évidemment, pour quelqu'un qui veut faire du hors-route sérieux, ben là, tu vas dans un TR dépôt chez Toyota et tu n'as pas d'équivalent chez Nissan. Alors, c'est peut-être ça. Mais de toute façon, il n'y en a pas de Tacoma chez les concessionnaires.
Non, voilà.
Vous allez attendre 6 mois, de la question, an. Là. Alors que Nissan, ben oui, ça se peut que vous ayez un délai, mais qui ne sera certainement pas aussi long. Puis au moment où on se parle, ben il y a des concessionnaires qui en ont en inventaire. Alors, ça se peut. Tu sais, ça, en partant, ça, c'est une bonne nouvelle. Et je comprends ce que vous dites par rapport au Ranger. C'est un 4 cylindres. Il y a une transmission 10 rapports qui passe son temps à changer de vitesse tout le temps. Le rendement, je veux dire, c'est un camion solide, c'est un camion sérieux, mais qui n'est pas aussi intéressant qu'un Frontier, ça, c'est clair.
Et considérant la demande pour les camionnettes intermédiaires...
Vous allez le revendre d'un claquement de doigts.
Oui, voilà, malgré ces irritants-là. Ouais. On a Guylaine qui nous dit qu'elle cherche une petite voiture cabriolet à 4 places. Elle ne veut pas de véhicule plus vieux que 2017. Elle aime beaucoup la Audi A3, la BMW Série 2 et la Volkswagen EOS. Laquelle des trois serait la plus fiable? Je me permets de mentionner que la EOS, si ma mémoire est bonne, on a arrêté avant 2017, donc il faudrait reculer.
On est à la limite un peu. Là. De toute façon, la EOS, c'est la dernière que je choisirais parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau du toit, mécanisme de toit, et ça craque, ce toit-là. Donc,
c'était très complexe.
Oui, c'était complexe, c'était lourd, c'était pas aussi intéressant selon moi. Je choisirais, j'aime beaucoup la conduite de la BMW de série 2, mais pour recommander une voiture, pour répondre à la question laquelle serait la plus fiable, ben je penche pour l'Audi A3 qui est essentiellement une Volkswagen Golf décapotable. En fait, il faut la considérer comme la nouvelle dernière génération de la Golf cabriolet, bien qu'on ait cessé sa production il y a quelques années. Un toit cabriolet qui est très étanche, une voiture qui se conduit comme un charme, qui consomme pas trop, qui coûte pas trop cher à entretenir, c'est celle que je choisirais. Mais la conduite de la BMW est un tantinet plus envoûtante, plus sportive.
Oui, c'est une propulsion alors que l'Audi est une traction.
C'est-à-dire que les deux sont des voitures 4 roues motrices, mais à la base, une voiture propulsée. Ouais,
donc,
c'est
ils ne sont pas typés de la même manière.
Ouais.
Dernière question, on a Louis qui nous dit, avant l'œil sur un Hyundai Kona électrique qui a été accidenté et reconstruit. Son prix est plus intéressant que des équivalents qui n'auraient pas été accidentés. Est-ce que c'est un achat risqué?
Oui, il n'y a plus de garantie sur ce véhicule-là, c'est clair. Acheter un véhicule gravement accidenté, ce qu'on appelle un VGA au Québec, là, c'est risqué parce que d'abord, il n'y a plus de garantie sur le véhicule et on ne sait pas exactement comment il a été réparé. C'est-à-dire que il faut que le véhicule ait été réparé dans les règles de l'art pour repasser une inspection mécanique. Mais est-ce qu'il y a eu une atteinte au niveau du système électrique du véhicule? Parce que du jour au lendemain, si vous avez un bris de la batterie ou du moteur, ça va vous coûter la valeur du véhicule. Là. Ça coûte une fortune. C'est pas des technologies qui sont normalement fragiles, mais un impact peut avoir eu un impact sur cette mécanique-là. Alors, il y a un risque. Puis, comme c'est pas des éléments mécaniques qu'on peut se procurer à coût raisonnable, moi, je pense que ça vaut pas la peine de sauver, disons, 5 000 $ pour acheter un véhicule reconstruit versus un véhicule dans sa condition initiale avec lequel vous allez avoir une balance de garantie puis une fiabilité qui va probablement être meilleure.
Bon,
j'aurais pas dit la même chose pour un véhicule à essence.
Ouais. Parce que la situation est particulière, c'est ça. Un véhicule électrique.
Exactement.
Là. Merci beaucoup, Antoine. Bonne fin de semaine.
Bye bye. Cube Radio.